C'est pas 10 minutes de pause, là, c'est 20 minutes, là. Donc, reprenez vos sièges, s'il vous plaît. On va lancer la vidéo.
Monsieur le secrétaire général Frédéric Cassillo, mesdames et messieurs les délégués, c'est un grand honneur de participer à l'ouverture du 26e congrès de Force ouvrière et de vous adresser un message de reconnaissance pour votre engagement en faveur du travail décent et de la justice sociale. Votre organisation a une longue et riche histoire en la matière. Une histoire étroitement liée à celle de l'OIT à travers des figures comme Léon Jouhaud ou Marc Blondel. À travers aussi un engagement constant pour la liberté syndicale et la négociation collective que vous avez défendu bien au-delà de la France. Nous traversons une période d'incertitude, une période marquée à la fois par des tensions géopolitiques croissantes et de profondes mutations du monde du travail. La transition numérique et l'intelligence artificielle posent des défis majeurs pour les syndicats. Transformation rapide des emplois, risque accru de précarité et d'inégalité, surveillance algorithmique et manque de transparence. Ces défis sont réels, mais ils ne sont pas inévitables. Les syndicats ont un rôle clé à jouer, renforcer la négociation collective, promouvoir un dialogue social inclusif et défendre des règles qui garantissent des transitions justes, la protection des droits et le développement des compétences. L'OIT sera toujours à vos côtés pour faire en sorte que cette transition soit équitable, qu'elle soit inclusive et centrée sur l'humain. Dans un monde en profonde mutation, notre organisation doit elle aussi s'adapter. L'OIT est appelée à évoluer afin d'assurer la pleine réalisation de son mandat avec une efficacité et une efficience renforcées dans un contexte caractérisé par des contraintes financières croissantes. La réforme que je propose s'inscrit dans cette ambition et s'articule autour de trois axes majeurs. D'abord, un recentrage très clair sur le corps du mandat de l'OIT afin de concentrer nos efforts là où nous apportons une valeur ajoutée unique. Ensuite, un renforcement de nos capacités dans les régions au plus près de nos mandats tout en consolidant au siège l'expertise stratégique qui fait notre force. Enfin, une amélioration de notre efficacité en simplifiant nos processus, en réduisant la fragmentation et en mobilisant au mieux nos ressources. Cette réforme constitue une opportunité de réaffirmer nos valeurs fondamentales qui doivent continuer de guider notre action et soutenir notre capacité à évoluer et à nous adapter sans jamais renoncer à nos engagements en faveur des droits des travailleurs et de la justice sociale. Je vous remercie.
Le camarade Luc Triangle, le secrétaire général de la SCSI, peut prendre la parole.
Bonjour, chers camarades, chère Cécile, cher Jacques, cher Frédéric. Je vous salue au nom de nos plus que 200 millions de membres répartis dans 170 pays. Et je suis heureux, très heureux, d'être parmi vous à l'occasion de votre 26e congrès ici à Dijon. Heureux d'être aux côtés de celles et ceux qui se mobilisent pour défendre la paix et la démocratie, les droits syndicaux et la justice sociale. Ce que vous allez débattre pendant votre congrès dépasse largement le contexte national. Il s'agit d'une lutte internationale, parce que partout dans le monde, les libertés fondamentales sont aujourd'hui attaquées. Et les syndicats sont souvent les premiers visés, non pas par hasard, mais parce qu'ils représentent le plus grand mouvement démocratique, le plus grand mouvement social au monde. Parce qu'ils donnent une voix collective aux travailleurs et aux travailleuses, parce qu'ils constituent l'un des derniers contre-pouvoirs face aux abus économiques et politiques. L'espace démocratique se réduit, en particulier sur les lieux de travail. Et pour la CSI, la Confédération syndicale internationale, une chose est très claire. La démocratie et le syndicalisme sont indissociables. Il est impossible d'avoir l'un sans aussi avoir l'autre. Et grâce aux droits démocratiques sur le lieu de travail, les travailleurs et les travailleuses peuvent obtenir des salaires équitables, des conditions de travail sûres et intervenir dans les décisions qui concernent leur vie. Sans ces droits, la démocratie devient vide de sens. En France comme ailleurs, nous observons une tendance extrêmement inquiétante. La criminalisation de l'action syndicale et de la prise de parole syndicale, ainsi que l'utilisation des institutions, y compris judiciaires, pour intimider, dissuader et faire taire celles et ceux qui défendent l'intérêt général. Ces attaques subies par le mouvement syndical visent la base démocratique du mouvement syndical. Ce n'est pas normal, c'est un signal d'alarme. Partout dans le monde, les mêmes libertés sont attaquées. Partout, les syndicats sont ciblés. L'indice CSI sur les droits dans le monde nous le montre année après année. Les droits syndicaux sont systématiquement bafoués, tandis que les gouvernements les limitent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans 87% des pays, le droit de grève a été violé. Et même en Europe, ce chiffre atteint à 73%. 4 pays sur 5 limitent le droit à la négociation collective. Des syndicalistes ont été arrêtés dans 71 pays et assassinés dans 11 pays. Des travailleurs et travailleuses ont subi des attaques violentes dans 1 pays sur 4. Cela n'est malheureusement pas une série de coïncidences. C'est une stratégie globale portée par une alliance dangereuse entre des intérêts économiques extrêmement puissants et une extrême droite qui progresse, banalise ses idées et attaque méthodiquement les contre-pouvoirs. À la CSI, nous appelons cela le coup d'État des milliardaires, une stratégie qui vise à capter le pouvoir politique, à détourner la démocratie et ses objectifs, et à empêcher toute justice fiscale, toute redistribution des richesses, toute régulation du capital. Ces milliardaires ne se contentent plus de rester dans l'ombre. Ils montent désormais sur scène aux côtés des responsables politiques. Ils contrôlent à présent une grande partie croissante de nos sociétés. Par exemple, les réseaux sociaux, les médias traditionnels, les satellites, ou encore l'intelligence artificielle. Il existe pourtant une différence fondamentale entre ces milliardaires et les responsables politiques. Les milliardaires, eux, ne sont soumis à aucun contrôle démocratique. Ils ne doivent pas se présenter devant les électeurs. Ils ne peuvent pas être battus, remplacés et sanctionnés. Face à cela, que faisons-nous, les syndicats? Nous luttons pour la démocratie à tous les niveaux, en défendant la liberté syndicale au sein de l'Organisation internationale du travail, en menant des campagnes internationales de solidarité qui rassemblent des travailleurs et des travailleuses du monde entier, en dénonçant publiquement les responsabilités du patronat et des gouvernements, en soutenant les syndicats lorsqu'ils sont attaqués. Et notre politique, chers camarades, est claire. La démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Les travailleurs et les travailleuses ont les droits et des droits qui doivent être respectés. Les syndicats ne sont pas le problème, ils font partie de la solution. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire ensemble que nous refusons la diabolisation des travailleurs les plus vulnérables comme les migrants. Nous refusons une société où la liberté est réservée aux plus riches. L'histoire nous l'enseigne. Aucun droit n'a jamais été accordé sans lutte. Le 1er mai, la liberté syndicale, la protection sociale, la justice fiscale, la paix, la démocratie elle-même sont le fruit de combats collectifs. Nous vivons dans un monde marqué par des inégalités croissantes, une insécurité grandissante et une violence accrue qui sapent la démocratie et la confiance envers les gouvernements. Plus que jamais, nous devons continuer à promouvoir la paix. La paix est une condition essentielle pour le mouvement syndical. Sans paix, il n'y a ni droit, ni dialogue social, ni possibilité pour les travailleurs et travailleuses de s'organiser librement. Les conflits et la violence détruisent des vies, affaiblissent les institutions démocratiques et réduisent au silence les voix des travailleurs. Chers camarades, le mouvement syndical a toujours été un acteur de paix, fondé sur la solidarité, la justice sociale et le respect des droits fondamentaux. Promouvoir la paix, c'est défendre les conditions mêmes qui permettent aux travailleurs de vivre dignement, de faire entendre leurs revendications et de construire des sociétés plus justes et plus démocratiques. Pour atteindre la paix, la dignité et l'égalité, nous avons besoin de justice sociale afin de garantir des emplois décents, des droits des travailleurs, une protection sociale universelle, des salaires équitables, ainsi que l'égalité et l'inclusion pour tous, pour tous. Aujourd'hui encore, c'est à nous de faire vivre ces combats, non seulement pour défendre ce qui existe, mais pour conquérir ce qui est nécessaire. Des droits respectés, une démocratie vivante, un monde plus juste, plus solidaire, plus humain. Ensemble, nous ne laisserons ni les intérêts financiers, ni les milliardaires, ni la répression faire reculer la démocratie. Chers camarades, quand les syndicats luttent, la démocratie vit. Quand les travailleurs et les travailleuses se mobilisent, tout est possible. Quand nous gagnons, tout le monde gagne. Je vous souhaite un bon congrès et solidarité mondiale. Merci.
Merci, camarades. Je prépare Esther Lynch, secrétaire générale de la CSE, s'il vous plaît.
Vive Force Ouvrière! Je suis désolée. I'm Irish, but I'm going to have to speak English. Delegates, dear Frederick, I bring solidarity greetings from the European Trade Union Confederation and the 45 million workers and the trade unions they represent. It's a real honour to be here with Force Ouvrière. Among trade unionists who don't just talk about solidarity, but who live it. Merci, merci, Force Ouvrière. Because when you strip everything else away, trade unionism begins with a simple idea. None of us are strong enough alone, but together we are. That idea has carried workers through generations, through crisis, through change, and it matters just as much today. Because when we look at the world of work now, workers are being asked to adapt faster than ever to new technologies, new business models, new pressures, and we're told to be endlessly flexible, to accept uncertainty as a way of life. And I see this not just as a trade unionist, but also in my own family. When I look at my son and his friends, I see something very worrying. Less control, less security, less certainty about the future. Young workers are angry about the present and fearful about the future. Fearful about what's coming next. And the question then for us is, what's our answer? For me, as General Secretary of the ETUC, it's the same as when I was a workplace representative. The answer is always the same. Jobs, pay and conditions, backed up by social justice at work, in the economy and the society. That's why your Congress theme matters so much. Every job should be a quality job. Not insecure work, not poverty pay, not work that breaks people's health, but work with fair wages, safe conditions, predictable hours and real rights. Because no one should work full-time and still struggle to pay their bills. No one should be treated as disposable. Everyone deserves respect at work. No matter what job you do, no matter who you are, no matter where you come from, or who you love. So how do we achieve this? Three priorities. First, strong unions, real rights and protection at work. Where collective bargaining is strong, all wages are higher, conditions are better and inequality is lower. But millions of workers in Europe are still denied that right. That's why at ETUC, with your help, we're pushing for full implementation of the Minimum Wage Directive, so that we get in Europe to 80% of workers covered by collective bargaining agreements. And that's also where we're fighting for the European Quality Jobs Act, because rights on paper are not enough. They must be real in people's lives, including health and safety. Because this is all about whether you can come home safe after your day at work. And we know today that the risks are not just physical, but they're mental too. Work is more intense, pressure is constant, and this is creating something that there's far too little recognition from employers: ethical stress. You know, workers want to do a good day's work. They want to do their job properly, the job they've been trained to do. But they're not given the time to do that. They're not given the means to do it. So protection today must include mental health, dealing with work intensity and dignity, because the job shouldn't break either your body or your mind. But also the Quality Jobs Act must include measures to fight exploitation in subcontracting and labour mediation. And colleagues, now we need to push again for rights for teleworkers. The Quality Jobs Act must ensure for real the right to disconnect. It must always be respected. And teleworkers must be given fair conditions at work. Our second priority, an economy that delivers for workers. At European level now, it's good that we're beginning to hear about re-industrialisation. Part of that plan is a Made in Europe. But the real question isn't just where things are made, but on what terms are they made. This means we're in favour of more production in Europe, but it must be with better jobs. It must make sure that the jobs that are created are jobs covered by a union agreement, a collective agreement that ends social dumping. Because when companies compete by lowering standards, workers lose. When workers stand together, we set the standard. And that's why cross-border solidarity is essential. And third, we must fight deregulation. We must defend everything that workers before us have won. Too often, in the name of flexibility, we see attempts to weaken protection and roll back rights. That's not modernization, it's deregulation. And it comes at the expense of workers' security, health and dignity. We see it clearly in one of the new proposals by the EU, the so-called 28th company, EU Inc. It will remove rights from workers, it will remove obligations from employers, it will replace wages with contracts instead of wages for share options. We're against that. I'm going to need all of you to help us fight against it, because it's not innovation, it's deregulation pretending to be progress. Colleagues, will we accept it? No! Defending workers' rights. Defending workers' rights also means defending our symbols. And our key symbol is May 1st. It's not just any old public holiday. It's the public holiday that's about respect for workers and about recognising the contributions of our trade unions. And we stand with you in defending it. And then we also need to work for our next big transformation, artificial intelligence. It can be progress, but the question is, progress for who? Without rules, it's likely to mean more control of workers, more surveillance, more pressure. But with the right rules, if humans are always in control, if the conditions are negotiated with trade unions, then yes, it can guarantee a better day at work. So our answer must be clear. In all transitions, workers must have the right to information so that they can anticipate and manage change. The right to training throughout working life with real safeguards for jobs and incomes. Because technological change must not mean social regression, it must mean progress for workers. Friends, colleagues, comrades, across all of these issues, one thread runs throughout them all. It's about power. It's about who decides, who benefits, who has a voice. And that brings us back to our solidarity, because our solidarity is how we turn our vulnerability into strength. It's how we move from reacting to the future to shaping it. And at the ETUC, that's our commitment, to work with you, with Force Ouvrière, to make sure workers are not at the margin, but at the centre. Because we want Europe's future to be decided with us. Together, we will make sure it's always with workers and their unions. And together, we'll make sure that every job is a quality job in every sector and every union, or in every part of the European Union. Frédéric, Branislav, thank you. Thank you so much. Thank you, Force Ouvrière.
J'appelle Cyril Combe, qui sera le dernier intervenant pour la délégation internationale, qui est le directeur du BET France.
Mesdames et messieurs les membres du bureau confédéral, cher Frédéric, cher Branislav, mesdames et messieurs les délégués, c'est un honneur pour moi de m'exprimer devant vous ce matin pour l'ouverture du 26e congrès confédéral de Force Ouvrière, après le propos de mon directeur général Gilbert Ungbo. Le mot d'ordre choisi pour votre congrès, la paix par la justice sociale, a évidemment une résonance toute particulière pour le représentant de l'Organisation internationale du travail en France que je suis. Il fait en effet écho aux premiers mots de la Constitution de l'OIT au lendemain de la Première Guerre mondiale, créée aux côtés de la Société des Nations. Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. De leurs efforts pour organiser un système international fondé sur la coopération et le règlement pacifique des différends, Les fondateurs de l'OIT ont fait de la justice sociale un principe central du multilatéralisme décent. Ils justifient encore aujourd'hui la place de l'OIT au sein des Nations Unies, comme l'a rappelé Frédéric Souillot ce matin. Et c'est une histoire partagée entre l'OIT et Force ouvrière. Elle s'incarne dans le destin d'un homme que l'on a rappelé ce matin, Léon Jouot, un acteur majeur du syndicalisme français et international dès la création de l'OIT, et plus encore au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la renaissance de l'organisation dans la foulée de la Déclaration de Philadelphie. Et Léon Jouot reçut le prix Nobel de la paix pour son action internationale en 1951. Ce lien précoce entre la paix et la justice se manifeste sur le terrain du travail, si déterminant pour les conditions de vie des peuples. La lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, ne peut s'inscrire durablement en dehors d'un régime de travail réellement humain, c'est-à-dire d'un statut, d'une organisation du travail dans la société qui assure la dignité de tous et des conditions de vie décentes. Et un tel régime ne peut voir le jour dans un seul pays. L'aspiration à la justice sociale se double d'une solidarité internationale au sein du monde du travail, si importante à rappeler aujourd'hui, car le mandat de l'OIT pour la justice sociale est mis à rude épreuve. Financièrement, bien sûr, les différentes agences des Nations Unies, y compris l'OIT, subissent des coupes dans leurs ressources. Mais politiquement aussi, des pans entiers de notre agenda pour le travail décent sont remis en cause, qu'il s'agisse des droits fondamentaux à la liberté syndicale, à la négociation collective, à la non-discrimination, à l'égalité entre les femmes et les hommes, ou qu'il s'agisse de la transition juste. Dans ce contexte, le tripartisme et le dialogue social doivent représenter une force et un atout pour surmonter les tensions géopolitiques et les menaces de guerre. Les représentants des travailleurs et des employeurs de chacun des 187 pays membres de l'OIT siègent dans nos organes de gouvernance au même titre que les gouvernements. Travailler à la justice sociale par la négociation collective, tel est l'engagement constitutionnel de nos mandants, et celui du Bureau, c'est de les y aider. Je donnerai un seul exemple des défis qui restent à relever. Lors de la prochaine Conférence internationale du travail, en juin prochain, une négociation importante qui a débuté l'an dernier doit se conclure par l'adoption de la première norme internationale sur les conditions de travail dans l'économie des plateformes numériques, l'ubérisation du travail. Il s'agit là d'une des grandes transformations de notre temps qui malmène les règles traditionnelles sur lesquelles est établi notre droit du travail, hérité de l'histoire industrielle, y compris le droit international du travail. L'enjeu de cette négociation, ça n'est rien de moins que d'assurer l'accès à leurs droits fondamentaux des travailleurs des plateformes, quel que soit leur statut, et faire en sorte que les entreprises du numérique ne puissent échapper à leurs responsabilités. L'enjeu, c'est aussi de protéger ces droits fondamentaux, notamment les données personnelles et le droit de travailler dans un environnement sûr et sain vis-à-vis de l'emprise des algorithmes. À Paris, le bureau de l'OIT pour la France que je dirige, avec des moyens modestes, mais avec le soutien de nombreux partenaires, et je citerai ici l'Association française pour l'OIT, le bureau de l'OIT pour la France s'attache à démontrer l'utilité de l'OIT et des ressources qu'elle offre à ses mandants pour relever tous ces défis. 192 conventions couvrent l'ensemble des relations individuelles et collectives du travail, les conditions de travail, la santé au travail, la protection sociale, et tous les travaux de l'OIT peuvent utilement nourrir la réflexion des organisations syndicales, des entreprises comme des pouvoirs publics. L'OIT est aussi implanté dans toutes les régions du monde, facilitant les connexions, les partages d'expériences et l'apprentissage mutuel. Le bureau de l'OIT à Paris sait pouvoir compter sur votre appui et je voudrais ici exprimer très sincèrement toute ma reconnaissance pour votre soutien, pour le soutien du bureau confédéral. Et ce soutien, encore une fois, m'oblige et je suis votre obligé à Paris. Merci encore et je vous souhaite un très fructueux 26e congrès confédéral.
Merci Cyril. Pour la reprise des travaux à 15h, Yvan, fin des dépôts de prise de parole à la reprise. Concernant notre camarade Sandrine Tellier, qui sera la présidente. En assesseur, Magali Lardeux et Yvan Caillé. Merci mes camarades et bon appétit.